Chapitre 9. Vers le mystère insondable de la vie. En 1900, une séance extraordinaire réunissait les membres de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. La convocation, libellée comme suit, « Communication de Messieurs Chasselon et Lavrille sur la vie et les travaux de Nulnegos », portait une annotation soulignée « Importance exceptionnelle ». C'est dire que la salle de réunion était pleine des savants académiciens un peu intrigués du fait que Nulnegos leur était à tous parfaitement inconnu. Le président de la séance, le plus ancien académicien des deux présidents en exercice, prononça le discours suivant. « Chers confrères, il y a environ 2 ans, l'Académie des sciences et l'Académie de médecine étaient informées par un notaire de Bondy qu'un monsieur Nulnegos, décédé depuis peu, avait institué lesdites académies conjointement comme ses légatrices universelles. Il nous faisait les héritiers de sa fortune, dont il nous laissait la libre disposition de ses instruments d'études et de tous ses travaux. Nos services administratifs, après avoir fait le nécessaire, entrèrent en possession d'une certaine somme, grevée seulement d'une rente viagère en faveur d'une vieille domestique et d'un laboratoire merveilleusement agencé, muni d'appareils ne rappelant que bien loin ceux dont nous sommes habitués à nous servir. Nos collègues, messieurs Chasselon et Lavrille, furent chargés de l'inventaire. Dès leur première visite au domicile du défunt, leur attention fut attirée par une série de gros volumes à reliure épaisse, ne portant sur le dos que des numéros d'ordre. Ces registres, tous manuscrits, émaillés de nombreux croquis et calculs, portaient comme en tête l'œuvre de Nulnegos. Il fallut à nos délégués 1 année pour en prendre connaissance, plusieurs mois pour vérifier par eux-mêmes quelques-uns des résultats annoncés, ce qui explique le retard apporté à la communication qui va vous être faite. Nous pensions, messieurs, être au courant de toutes les recherches, d'ordre vraiment supérieur, que les savants du monde entier poursuivent sans relâche pour faire participer la science au plus grand bonheur de l'humanité. Nous croyons connaître, en particulier, car nous les suivions étape par étape à toutes nos réunions, les études faites sur notre chère terre de France. Nous nous y intéressions, les encouragions, essayant, par nos discussions, de stimuler le génie qui les ferait aboutir. Et nous ne nous doutions pas que, dans un petit pavillon de la banlieue de Paris, un inconnu travaillait, depuis plus de 40 années, à un problème dont l'exposé seul marquait celui qui avait osé se le poser d'un signe de folie ou de sublime génie, et dont la solution devait amener l'évolution humaine à un gigantesque tournant. Cet inconnu, messieurs, devant qui nous devons nous incliner avec respect, avec vénération, nous allons lui donner, en le révélant au monde, la plus glorieuse immortalité. C'est Nulnegos. Oui, Nulnegos, l'homme dont la science fait pâlir la nôtre, le modeste qui a abordé seul l'un des côtés les plus troublants de la physiologie, qui a imaginé des appareils inouïs, inventé une méthode et des moyens nouveaux d'examen, dont l'application à d'autres sujets révolutionnera toute la médecine, toute la chirurgie. Oui, Nulnegos, qui, écoutez bien messieurs, est arrivé à lire la pensée humaine. Ne croyez pas qu'il ne s'agisse que de quelque perfectionnement, de méthode psychologique quelconque, ou d'observation raisonnée des réflexes nerveux qui accompagnent certaines impressions. Non, messieurs, Nulnegos est arrivé à lire dans le cerveau humain sans tenir aucun compte des phénomènes extérieurs, comme nous lisons dans un livre. Il a vu, dans le cerveau, les pensées tourbillonner, comme l'on peut voir le sang couler dans les artères, comme on peut voir les nerfs se contracter sous un contact. Oui, il a vu les pensées, il les a saisies, les a lues, les a notées. Son œuvre n'est pas achevée. Ce qu'il voulait, c'était arriver à les lire à distance, à les enregistrer mécaniquement et à les fixer d'une façon indélébile. La mort ne lui a pas permis de trouver la solution complète du vaste problème qu'il s'était posé, mais la voie est toute tracée. D'autres tiendront à l'honneur de terminer sa tâche. Ce n'est pas sans une profonde émotion que j'annonce publiquement cette découverte qui place son auteur au premier rang de tous les savants de son siècle. Que dis-je, de tous les siècles. Je ne sais ce que penseront les philosophes d'une humanité si nouvelle, où la sincérité, non pas l'apparente, mais la réelle, sera si facilement contrôlable. Beaucoup estimeront sans doute que la vie serait meilleure si l'on laissait intact le voile noir qui sépare la pensée de la parole et des actes. D'autres s'enthousiasmeront à l'idée que l'hypocrisie sera désormais démasquée, que l'on pourra toujours connaître les véritables mobiles des actions humaines. Mais c'est là, messieurs, l'affaire des philosophes. Quoique la philosophie ne nous soit pas inconnue, c'est surtout vis-à-vis de la science que nous devons essayer d'apercevoir quelques-unes des innombrables conséquences heureuses de l'œuvre miraculeuse de Nul Negos. Je vous ai déjà dit que la lecture de ce qui se passe dans le cerveau n'a pu être faite qu'avec l'aide d'appareils et de dispositifs jusqu'ici inconnus. Ces moyens vont permettre de voir et d'examiner à l'aise ce qui se passe dans n'importe quelle partie du corps humain. Nous pourrons suivre, au cours d'une maladie, les diverses altérations des organes, des tissus. Nous pourrons suivre les modifications apportées par telle ou telle médication, tel ou tel traitement, et vous voyez d'ici qu'une thérapeutique nouvelle est à la veille de naître. Lorsqu'une intervention chirurgicale sera jugée nécessaire, l'opérateur pourra agir avec précision puisqu'il aura vu d'avance le milieu où il agira et qu'il n'aura à craindre aucune surprise. Je me borne, messieurs, à ces quelques remarques, mais je ne puis me retenir d'ajouter qu'à côté de ces répercussions sur la médecine humaine, sur la moralité, la géniale découverte de Nul Negos, par la connaissance qu'elle permettra des mouvements et des transformations des diverses cellules de l'organisme, fera sans doute faire à la science un pas en avant vers le mystère, jusqu'ici insondable, de la vie. Messieurs, en votre nom, au nom de tous les savants français et du monde entier, je rends à la mémoire de Nul Negos le très profond, respectueux et reconnaissant hommage qui lui est dû. Ce préambule, annonce d'une découverte si extraordinaire, provoqua une telle émotion que le président dut attendre quelques minutes avant de donner la parole à messieurs Chasselant et Lavrille qui devaient exposer à la docte assemblée la vie et les travaux de Nul Negos. Écrit aux armées, sous Verdun, novembre 1916, Raoul Bigot. Fin de Nul Negos, lu par Isade,